Une lecture dans l'évangile de Luc. Alors, j'ai fait une entorse à la tradition, c'est-à-dire que je n'ai pas pris les lectures d'aujourd'hui. C'est bien de temps en temps de couper le certain rythme. Parce que j'ai travaillé ce texte pendant des jours et des jours et des jours et des jours, sinon des mois. Et je pense que c'est le temps, maintenant, de prendre la parole plus au sérieux concernant les prophètes et certaines paroles que Jésus a dites. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset B, pas le petit verset A du 24, mais le B, c'est-à-dire la fin du verset. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Nous prions. Seigneur, souvent nous lisons ta parole et nous ne comprenons rien. Nous avons une vague idée de ce que tu dis des fois. Parce qu'il faut que nous la méditions, Seigneur, que nous la mâchions, que nous la digérions. Et tu dis que tu révèles tes secrets, Seigneur, à ceux qui cherchent, à tes serviteurs les prophètes, à tous ceux, Seigneur, qui prennent au sérieux cette parole. Alors donne-nous ton esprit, Seigneur, ce matin. Déblaye tout ce qui nous encombre dans nos vies, dans nos pensées aussi, Seigneur. Et que ta parole ce matin nous réveille, nous édifie, nous remet en route, Seigneur. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous, mets-nous à part, Seigneur, par cette vérité. Amen. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Cette déclaration de Jésus fait suite à la demande des disciples concernant la destruction du temple de Jérusalem. Mais sa réponse est bien plus vaste que la question restrictive des disciples limitée à quelques pierres à l'avenir du temple de Jérusalem. Vous pouvez relire le début de ce chapitre 21 de Luc chez vous pour mieux discerner le contexte de ce que nous allons méditer. Pouvons-nous comprendre ce que nous venons de lire? Ça me rappelle Philippe, l'évangéliste dans le livre des Actes, qui est envoyé par Dieu sur le chemin de Gaza, alors qu'il y a un réveil exceptionnel à travers le ministère de Philippe. Le Saint-Esprit lui dit d'un seul coup, pars, laisse tomber cette œuvre et va sur le chemin de Gaza, dans le désert. Et nous connaissons la suite. Il va rencontrer ce juif éthiopien qui vient chaque année à Jérusalem pour Pessah, pour la Pâque. Il est en train de lire le rouleau d'Ésaïe 53 et il comprend que dalle. Comment comprendrais-je si personne ne me l'explique? Toutes les choses décrites par Jésus entre les versets 8 à 24, compris, je dis bien de 8 à 24, se sont accomplies à la lettre. Le 9 av 3830 depuis la création d'Adam, autrement dit, en 70 de notre ère, après 4 années de siège de Jérusalem, et son temple seront complètement détruits. Il y a beaucoup de difficultés à lire ce chapitre 21 parce que les gens y mélangent tout. L'exil du peuple juif organisé par les Romains débute C'est pourquoi nous sommes certains que les autres versets, les versets du 25 à 28 de ce chapitre 21 de Luc, auront eux aussi leur accomplissement. À partir de cette date, le peuple juif n'existe plus en tant que nation. Et à la date d'aujourd'hui, cet exil demeure de plus près de 2500 ans, ou 2000 ans. Il y a deux exils, il y en a plusieurs, on ne va pas rentrer dans les détails. Disons 2000 ans. Mais si nous voulons comprendre en profondeur le contenu de la réponse de Jésus à ses disciples, à la sortie du temple, tu vois, c'est clair, Seigneur, il nous faut retenir ce qui est mis en exergue dans celle-ci. Jésus nous dévoile ce qui est, à mon sens, une des plus grandes prophéties de la Bible, puisqu'entre le début du verset 24, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, et sa fin, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, une période, je le répète, de 2500 ans s'est écoulée. Et elle n'est pas terminée. Dans l'Écriture sainte, Jésus est nommé avec plusieurs titres. Fils de David, Emmanuel, Dieu avec nous, Fils de Dieu devant son grain, devant le sang des grains. Si tu es le Fils de Dieu, dis-le nous. Roi des Juifs, Messie d'Israël, Sacrificateur dans l'Hébreu, Fils de l'homme dans le livre de Daniel. Mais il est aussi, avant toute chose, un prophète, ce que nous oublions trop souvent. Un prophète annoncé par Moïse lui-même. Et sans doute un des plus grands prophètes que le judaïsme ait compté avec Moïse et Jean-Baptiste. Dans sa réponse aux disciples, Jésus nous parle de Jérusalem. Et nous savons combien il était attaché à cette ville, puisque le texte biblique nous révèle dans les évangiles qu'il a pleuré sur cette ville. D'ailleurs, il y a une chapelle au Jardin des Oliviers qui s'appelle comme ça, les larmes de Jésus à verser. Cette ville qui n'a pas connu celui qui la visitait, autrement dit Jérusalem, qui n'a pas reconnu en lui le Messie tant attendu depuis des générations et des générations. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ce texte, c'est le mot « nation » et le mot « temps », les temps des nations, qui prennent un relief étrange dans ce verset. Car à la fois, il indique des événements tragiques et des événements à venir glorieux. Regardons de plus près ce mot « nation ». Nous le trouvons dans la Bible pour la première fois dans le livre de la Genèse, au chapitre 10 et au verset 5, tout de suite après le déluge. Vous regarderez ça dans vos Bibles. Et ce sont les descendants des fils de Noé qui ont constitué les premières nations. Shem, Ram, Yafet. Shem, ça veut dire nom. Ram, c'est le père, le grand-père de l'Égypte, de Canaan, de l'Éthiopie, de Cush. Vous regarderez ça aussi dans vos Bibles. Et Yafet, c'est un verbe Yafet qui se répand. Ils avaient certainement des gènes où ils allaient faire beaucoup d'enfants, donc ils se répandent partout. Ils se répandent sur tout un grand territoire. Et puis, suite à la construction de la tour de Babel, Dieu les dispersa sur toute la surface de la terre, chapitre 11, verset 9, en confondant leur langue. Et puis, on ne sait pas pourquoi, lorsque l'on découvre le texte biblique, tout de suite après l'épisode de la tour de Babel, l'auteur de ces lignes revient, ça m'a marqué profondément, sur la généalogie de Shem. C'est-à-dire qu'il donne les généalogies de Shem, de Ram et de Yafet. On dit ça y est, c'est clôturé, c'est parfait, c'est impeccable. Voilà. Et puis, un peu plus loin, dans un autre chapitre, on reprend la généalogie de Shem. Et on pourrait se demander pourquoi. Et je me suis demandé pourquoi. Mais vous lirez ça chez vous. Comme s'il voulait, l'auteur de ces lignes, indiquer que l'histoire allait recommencer avec un descendant de Shem. Et c'est exactement cela, puisque notre écrivain va nous conduire à travers cette autre généalogie jusqu'à Abraham. Tout le plan de Dieu sur son peuple est contenu en germe dans la mise à part d'Abraham quand il sortit d'Ur en Chaldée et lorsqu'il reçut les grandes promesses adressées à l'Éternel. C'est un vol historique, je fais, pour que vous puissiez comprendre la nature des choses. Et on ne saurait attacher trop d'importance aux 9 premiers versets du chapitre 12 de la Genèse, car jusqu'ici dans la Bible, il n'y a ni juif, ni gentil, seulement des nations qui marchent selon leur convoitise et se sont détournées de la vérité. Et nous voyons bien qu'à ce moment-là de l'histoire biblique, Dieu est en train de forger un plan. Nous n'en savons pas le contenu pour l'instant. Il faudra attendre encore quelques siècles pour en discerner la réalité. Toujours est-il que c'est bien à travers la descendance d'Abraham que Dieu va se forger un peuple qui va rentrer en scène dans l'histoire biblique pour ne plus en ressortir du tout. Dieu va se choisir un homme hors du commun, un peu roublard sur les bords, rusé, mais travailleur acharné, qui, pour les yeux d'une belle, va accepter de travailler 14 ans pour pouvoir l'épouser. Cet homme, c'est Jacob. C'est Jacob. De la racine du verbe Yakev, qui veut dire le talon. C'est un fonceur. Celui qui, dès la sortie du sein maternel, veut supplanter son frère, qui lui arrachera son droit d'aînesse, celui qui luttera avec Dieu et qui en ressortira blessé à la hanche, bien que vainqueur, celui dont le nom sera changé et qui s'appellera désormais Israël. Et à partir de cet épisode, l'histoire de la famille de Jacob va prendre toute la place dans l'Écriture sainte pour nous conduire dans la révélation que Dieu a pour l'humanité et pour ce peuple choisi. J'aime pas le mot élu. Élu, on dirait que ça a été, il y a eu des élections. Non, Dieu a choisi son peuple. Israël est seul en vue à ce moment-là dans l'histoire biblique. Son histoire est au premier plan dans toute l'Écriture. Et les nations n'apparaissent plus que dans la mesure de leur rapport avec le peuple que Dieu va se choisir. C'est le séjour de Jacob en Égypte et surtout de ses descendants qui, bien que permis par Dieu, marquera le début, hélas, du mélange d'Israël avec une nation étrangère. Les frères de Joseph avaient reçu de Pharaon la terre de Goshen pour y séjourner. Mais là encore, en Égypte, sur un terrain séparé, ils ne devaient y demeurer qu'au temps de la famine. C'est un fait qui passe presque inaperçu dans l'Écriture sainte. Ils ne devaient pas y rester 400 ans, bien que Dieu ait prophétisé qu'ils y resteraient 400 ans. Et encore, ce n'est pas 400 ans, bref. Dieu annonce un jour à Abraham, lorsqu'il a 70 ans, lors de la Brit Béla Bétarim, qu'on appelle l'alliance entre les morceaux. Vous vous rappelez de cette histoire où il va y avoir des sacrifices d'animaux qui seront coupés en deux et puis des oiseaux qui, eux, seront entiers offerts en sacrifice. On est en train de nous dire que à ce moment-là, Abraham est tombé dans une grande torpeur et dans le judaïsme, on comprend alors, à ce moment-là, que Israël va avoir des problèmes avec quatre nations au cours de son histoire qui va, pour ainsi dire, commencer les temps des nations. Dieu, connaissant parfaitement le cœur de l'homme, se doutait bien que devant l'abondance de l'Égypte, le peuple aurait des difficultés à sortir du pays. Les Israélites furent séduits par la vie facile que l'Égypte leur offrait. La nourriture y était abondante, le Nil foisonné de poissons qui ne coûtaient rien, les jardins qui bordaient le fleuve étaient cultivés, et les melons et les concombres et les oignons et toutes sortes de céréales s'y trouvaient en abondance. Au lieu de s'en retourner en Canaan, les Hébreux demeurèrent en Égypte. La promesse faite au patriarche était tombée dans l'oubli. Et j'ai bien peur que l'Église d'aujourd'hui soit plus attachée aux choses de ce monde qu'à la promesse de son enlèvement. Les oignons, les concombres et les perches de la vallée du Nil ont pris d'autres couleurs et d'autres formes. Mais pour constituer ce peuple, il va falloir qu'il passe par l'épreuve, car Dieu éprouve toujours ceux qu'il appelle à son service. Ce sont 70 personnes qui constituent à cette époque la famille de Jacob qui se retrouveront en Égypte. 70 personnes, comme si c'était une personne comme sacrificateur qui représentait une nation. 70 personnes, 70 nations au début de la Genèse. Mais c'est un peuple qui en sortira d'environ 3 millions d'âmes. Et peut-être que nous sommes encore loin du compte. 600 000 hommes de guerre, sans compter les femmes et les enfants. Ce peuple, nous le trouvons maintenant dans le désert, après 40 ans de pérégrination, qui se prépare à entrer dans le pays de Canaan. Tiens, Canaan, si vous regardez bien vos Bibles, c'est un petit arrière-petit-fils de qui? Eh bien d'un Canaan. Parce qu'il n'était pas rare que le nom donne le nom aussi d'une ville. Un fils ou un petit-fils de Ram. Moïse, leur chef, sollicita du roi des Amoréens, dénommé Sion, le libre passage sur son territoire à l'est de la mer Morte. Mais Sion refusa, et en une seule campagne militaire, tout son royaume, comme aussi celui d'Og, roi de Bassan, fut complètement détruit. On oublie tout ça. Et à cette vue, une véritable panique se répandit chez les peuples voisins. Balak, roi de Moab, voyant Israël camper déjà dans ses plaines, fut saisi d'une terreur. S'il est attaqué, il sait qu'il n'a pas la force nécessaire pour arrêter l'envahisseur. Alors une pensée lui vient. Il croit à la puissance mystérieuse d'un certain Balaam, à la fois magicien, enchanteur, devin, tout ce que vous voulez, dont la renommée s'est répandue à travers tout l'Orient. Et des messagers partent vers lui à Pétor sur l'Euphrate et lui disent, de la part du roi de Moab, « Voici un peuple, ça prend forme, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la face de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. » Et je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Nous connaissons la suite. Et pour terminer cet épisode, examinons ce que proclame Balaam. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serai-je irrité contre ce peuple, puisque l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple des hauteurs. C'est un peuple qui demeure à part et qui ne sera pas compté parmi les nations. Oui, réécoutons ce qui nous a été dit là. C'est un peuple qui demeure à part et qui ne sera jamais compté parmi les nations. Ainsi l'Éternel dut châtier son peuple pour lui ouvrir les yeux. Il le fait réduire en esclavage par un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Les enfants d'Israël comprirent enfin leur erreur et ils crièrent à l'Éternel. Mais il fallut une nouvelle mise à part, celle de la Pâque, sous le signe du sang de l'agneau et de la circoncision qui semblerait avoir été abandonnée lors de cette période en Égypte. Oui, j'en ai pour preuve que Séphora, un jour il nous a dit que Dieu attaqua Moïse pour le tuer, et Séphora prit le prépuce de son fils Guershom, le jeta aux pieds de son époux. Ah, c'est bizarre comme histoire. Mais quand on gratte bien la parole de Dieu, on ne trouve plus que c'est bizarre, que ça tient la route. Oui, la mise à part dans le désert, sur la terre de la promesse, le fut sous le signe de la loi donnée au Sinaï. La législation très particulière donnée à Israël devait l'astreindre à vivre en séparé, en isolé, pour le préserver de toute alliance et de mélange avec les nations. Ainsi Dieu préparait une nation entre toutes pour qu'elle soit sainte et qu'elle serve de témoin au monde entier. Fait unique dans l'histoire des nations, unique au monde, Israël devient une nation et reçoit sa constitution au Sinaï avant d'hériter sa terre. Généralement, c'est le contraire qui se produit. Les nations se battent, et le vainqueur prend le territoire, et après, ils font des lois, et puis après, ils se constituent une législation. Et bien là, ce qui s'est produit, c'est complètement l'inverse. Dieu aussi accepte d'être présent, écoutez bien, dans un tabernacle portatif, alors que les cieux lui appartiennent. Un Dieu qui accompagne son peuple au désert et qui parle face à face avec un homme, Moïse, qu'il s'est choisi. Un Dieu qui se révèle dans un buisson d'épines et qui révèle son nom. Je serai qui je serai, ayez à chair, ayez. Incroyable, mais vrai. Comment Israël répondra-t-il à l'appel de Dieu, à ses grands privilèges, mais aussi à ses redoutables obligations? Nous connaissons la réponse et la prophétie avant l'heure nous le révélera. Israël échouera lamentablement. Mais ce qui est sûr, c'est que séparé des nations par sa loi et la situation géographique de son pays, ou mêlé aux nations lors des captivités et plus encore dans les dispersions actuelles, bien qu'il entame aujourd'hui un retour au pays, Israël ne se confondra jamais avec ses nations. Il demeurera une race à part, distincte de toutes les autres. Ainsi donc, Dieu va créer un peuple en le libérant d'Égypte. En hébreu, on utilise le mot Etsia qui veut dire sortie. Ce n'est ni un exode, ni un exil, puisqu'Israël n'a pas encore de terre qui lui appartienne. C'est pourquoi le judaïsme considère cette sortie d'Égypte comme une naissance dont la mère serait l'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte ne sont que les douleurs de l'enfantement. Et il faudra arriver, on oublie ça souvent, hein. On dit, ouais, les Juifs sont sortis d'Égypte. On oublie qu'il y a eu 9 plaies avant qu'ils sortent. Et puis la 10e frappe tous les nouveau-nés. Morts. Celle de la mort des premiers-nés d'Égypte. Et en Israël, chaque année, le jour avant la Pâque, on fête cette mort des premiers-nés d'Égypte. Les eaux libèrent le nouveau peuple-né. Voilà pourquoi la sortie d'Égypte est considérée comme une création, une nouvelle naissance, celle d'un nouveau-né qui fera ses premiers pas dans un désert. Au pied du Sinaï, à Pentecôte, hein, ça existait déjà, excusez-moi, mais vous regarderez, hein, au pied du Sinaï, à Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque, Dieu va donner à ce peuple sorti d'Égypte sa loi. 40 ans plus tard, il va lui donner sa terre. Puis encore quelques années, il va choisir une ville, Jérusalem. Puis il choisira un roi selon son cœur, David, qui établira son royaume. Et enfin Salomon pour qu'il lui construise son temple. Pendant quelques années, Dieu gouvernera son peuple, puis viendra le schiste qui séparera pour un temps le peuple entre les tribus de Juda et d'Éphraïm, Puis, voyant qu'Israël se détourne de lui, Dieu va le livrer aux nations en se retirant de sa gouvernance, et le temps des nations va commencer. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, il nous faut savoir quand et comment et pourquoi ce temps des nations va commencer, et de regarder de plus près à la prophétie de Jésus qui décrit ces événements. Alors, pour aller plus vite, parce que le temps passe, je ne vais pas tout vous livrer aujourd'hui. Mais nous allons aller par la suite dans le livre de Daniel, et nous allons voir un grand roi, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui fait un songe. Et il ne peut pas, non seulement il ne se rappelle plus du songe, mais il demande à ses échansons de l'interpréter. Et les échansons, disons, il est en train de nous piéger, on ne s'en sortira jamais. Et Nebuchadnezzar dit, mais si vous ne nous dites pas, je ne vous raconterai pas le songe, si vous ne nous dites pas l'interprétation de ce songe, je vous coupe les têtes. Je passe sur certains épisodes. Daniel étant envoyé en exil à Babylone, étant aussi devenu un échanson de Nebuchadnezzar et plus tard gouverneur de certaines provinces, voici ce qu'il dit. Toi, ô roi, tu voyais. Il insiste bien. Tu voyais. Et voici une grande statue. Cette statue était grande et sa splendeur extraordinaire. Elle se tint devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans main et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les écrasa, les broya. Alors fut broyé ensemble le fer, l'argile, les reins et l'or, et ils devinrent comme la balle d'été. Et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux. La pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Je vais terminer. Notre génération est privilégiée, parce qu'elle voit s'accomplir sous ses yeux les promesses faites à Israël. Mais en même temps, elle est responsable devant Dieu de faire connaître aux nations justement le plan de Dieu que Dieu a pour l'humanité et pour son peuple. Elle doit annoncer clairement que les temps messianiques sont proches et que le salut offert en Jésus-Christ est encore accessible. Puisant dans la parole les forces nécessaires pour tenir bon au jour de la tentation qui viendra sur ce monde. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Le temps des nations a commencé. Amen.